Bonjour à tous. Oui, là ça va. Merci d'être là ce soir. Donc on va parler à travers nos masques. J'espère que ça va le faire quand même. Donc on va commencer ce conseil municipal avec la lecture donc des pouvoirs. Alors je voudrais d'abord désigner un secrétaire de séance. Est-ce que quelqu'un est volontaire pour assumer ce rôle? Faouzia, merci. Donc nous avons le pouvoir de Madame Boulanger, qui a donné pouvoir à Christophe Moutot. Thierry Baillet a donné pouvoir à Sabine Adrien. Marie Combeau a donné pouvoir à Delphine Bonin. Sabine Adrien a donné pouvoir à Henri Leclerc, donc le pouvoir de Monsieur Baillet ne pourra pas être pris en compte. Et Erwan Gargadenec m'a donné pouvoir. Michel Vernier a donné pouvoir à Martial Robert. Corinne Tendu à Guillaume Viennois. Et voilà, je pense que c'est bon, on a fait le tour des pouvoirs. Très bien. Alors nous allons passer à l'ordre du jour avec en premier dossier les délégations consenties par le conseil municipal à Madame le maire au sens de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Comme je suis concernée, c'est Monsieur Viennois qui va vous en faire la proposition.
Alors, l'article 2122 22 du Code général des collectivités territoriales liste limitativement les attributions que le conseil municipal peut déléguer en tout ou partie au maire pour la durée du mandat. Ces délégations sont consenties dans un souci de réactivité, d'efficacité d'action administrative et afin de faciliter la gestion des affaires courantes. Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. Conformément à l'article L2122-23 du CGCT, il sera rendu compte à chacune des réunions du conseil municipal des attributions exercées par Madame le maire en application de cette délibération. Les décisions prises par le maire dans le cadre des pouvoirs délégués sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil municipal, à savoir les mesures de publicité, de notification et de transmission légale et réglementaire. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2122-22, L2122-23, considérons que conformément à l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal peut déléguer une partie de ses attributions à Madame le maire, que dans un souci de réactivité, l'efficacité de l'action administrative et pour faciliter la gestion des affaires courantes, le contenu de cette délégation pourrait être fixé comme suit. Décide de déléguer à Madame le maire pour la durée de son mandat les attributions suivantes. Premièrement, arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Deuxièmement, procéder dans la limite de l'inscription budgétaire annuelle à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris des opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre des décisions mentionnées au 3 de l'article L1618-2 et au A de l'article L2221-5-1. Sous réserve des dispositions du C de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Troisièmement, prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes, de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, septièmement, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, huitièmement, d'accepter les dons et legs qui ne se grevaient ni de conditions ni de charges, Neuvièmement, de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. De déterminer et fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. De fixer, dans la limite de l'estimation des services fiscaux domaine, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. De décider de la création de classes dans des établissements d'enseignement. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 14. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien, selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L213-3 de ce même code, pour des acquisitions dont le montant est inférieur à 50 000 €. D'intenter l'ensemble des décisions d'action en justice en demande et en défense de la commune, en se faisant assister le cas échéant par des avocats devant tous les degrés de juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, ainsi que devant le tribunal des conflits. L'ensemble des dépôts de plaintes au nom de la commune, avec ou sans constitution de partie civile, ainsi que les actes se rapportant aux procédures de médiation. De transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 20 000 € par sinistre. De donner en application de l'article. De donner en application de l'article L324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commission de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée, et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L332-11-2 du même Code, dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. 19. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 2 millions d'euros. 20. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 à L240-3 du Code de l'urbanisme. 21. De prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 22. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 23. De demander à tout organisme financeur, notamment l'État et d'autres collectivités territoriales, l'attribution de subventions, quel qu'en soit le montant. 24. De procéder, après avis de la commission municipale compétente, au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. 25. D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique, prévue au 1 de l'article L123-19 du Code de l'environnement. Les délégations consenties en application du 2 prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Aussi décide que Madame le maire pourra, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner par arrêté délégation au premier adjoint en vue de la signature des actes relatifs aux attributions déléguées par le conseil municipal. Donc il nous faut maintenant passer au vote. Je propose donc un vote à main levée. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote donc pour ? Voilà, à l'unanimité. Merci.
Bien, le dossier suivant concerne la commission d'appel d'offres. Les conditions de dépôt des listes pour l'élection. Au terme des dispositions de l'article L1414-2 du Code général des collectivités territoriales, pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure au seuil européen qui figure en annexe du Code de la commande publique, Le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L1411-5 du même code. Composition de la commission. Cette commission doit être composée par l'autorité habilitée à signer le marché ou son représentant, qui doit être désigné comme président. Elle est également composée de 5 membres de l'Assemblée délibérante, élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. En outre, d'autres personnes peuvent être appelées à siéger dans la CAO lorsqu'elles y sont invitées par le président avec voix consultative seulement. C'est le cas des agents de la commune et des personnalités désignées par le président en raison de leurs compétences dans le domaine faisant l'objet du marché, du comptable de la ville, d'un représentant du service chargé de la concurrence relevant de la direction départementale de la protection des populations ou de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Le rôle de la commission. La commission procède au choix du titulaire du marché. Toutefois, en cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres. Tout projet d'avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global supérieur à 5% est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. Lorsque l'Assemblée délibérante est appelée à statuer sur un projet d'avenant, l'avis de la commission d'appel d'offres lui est préalablement transmis. Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés publics qui ne sont pas soumis à la commission d'appel d'offres. Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans les conditions de l'ordonnance 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. À l'exception des règles de quorum et de la tenue des procès-verbaux, expressément prévues par l'article L1414-2 du Code des collectivités, les modalités de fonctionnement de la CAO sont librement déterminées par un règlement intérieur en conseil municipal. En ce qui concerne les conditions de dépôt des listes pour l'élection des membres de la commission permanente d'appel d'offres, avant de procéder à cette élection, il convient, conformément à l'article D1411-5 du Code des collectivités, de fixer les conditions de dépôt préalable des listes. Il est proposé aux membres du conseil municipal de fixer comme suit les modalités de dépôt des listes pour l'élection de la commission permanente d'appel d'offres. Les listes peuvent comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges à pouvoir, 5 titulaires, 5 suppléants. Elles sont déposées auprès de Madame le maire jusqu'au 23 juillet à 12h. La désignation sera fixée par l'élection à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1414-2 et suivants, L1411-3, L1411-5 et D1411-5, vu la circulaire ministérielle du 20 mai 2020 relative aux mesures à prendre par les conseils municipaux à la suite du renouvellement général, je vous propose la décision de créer une commission d'appel d'offres à caractère permanent et ensuite d'établir les modalités de dépôt des listes pour l'élection de la commission permanente d'appel d'offres dans les conditions que je viens de vous exposer. Donc, je vous propose peut-être de faire un vote groupé. Est-ce que certains parmi vous sont contre ces deux propositions? Est-ce que certains s'abstiennent? Je vous remercie. Alors nous allons passer au troisième dossier, la commission de délégation de services publics et de concession, et en ce qui concerne les conditions de dépôt des listes pour l'élection. Au terme des dispositions de l'article L1411-5 du Code général des collectivités territoriales. Une commission est chargée d'analyser les dossiers des candidatures et des offres dans le cadre d'une procédure de délégation de services publics. Cette commission doit être élue au scrutin de liste, suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste. La composition de la commission. Elle doit être composée par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de services publics ou son représentant, qui doit être désigné comme président. Elle est également composée de 5 membres de l'Assemblée délibérante, élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Quel est le rôle de la commission ? La commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, prévue aux articles L5212-1 à L5212-4 du Code du travail, et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. La commission de délégation de services publics et de concession n'attribue pas les contrats. Il appartient au conseil municipal d'attribuer ces contrats. Tout projet d'avenant à une convention de délégation de services publics entraînant une augmentation du montant global supérieur à 5% est soumis pour avis à la commission. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis. Les délibérations de la commission de délégation de services publics peuvent être organisées à distance dans les conditions de l'ordonnance numéro 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. En ce qui concerne les conditions de dépôt des listes pour l'élection des membres de la commission permanente de services publics et de concession, avant de procéder à cette élection, il convient, conformément à l'article D1411-5 du Code, de fixer les conditions de dépôt des listes. Il est proposé aux membres du Conseil municipal de fixer comme suit les modalités de dépôt de liste pour l'élection de la Commission permanente de délégation de services publics. Les listes peuvent comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges, à pouvoir, je vous le rappelle, 5 titulaires, 5 suppléants. Elles sont déposées auprès de Madame le maire jusqu'au 23 juillet à 12h. La désignation sera fixée par élection à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Donc je vous propose ce soir de créer une commission de délégation de services publics et de concession à caractère permanent, d'établir les modalités de dépôt des listes pour l'élection de la commission permanente de délégation de services publics dans les conditions dont je viens de vous parler. Je vous propose là aussi un vote groupé pour les deux propositions. Est-ce que quelqu'un vote contre ? Est-ce que quelqu'un s'abstient ? Je vous remercie. Alors nous allons parler maintenant des élections au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Il faut fixer le nombre d'administrateurs, la nomination et les élections des administrateurs. Alors, le Centre communal d'action sociale, pour rappel, c'est un établissement public administratif communal. Il est administré par un conseil d'administration présidé par le maire. Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire. Outre son président, le conseil d'administration du CCAS comprend des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal. Le conseil d'administration comprend également des membres nommés par le maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune. Il comprend en nombre égal au maximum 8 membres élus en son sein par le conseil municipal et 8 membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal. L'article R123-7 du Code de l'action sociale et des familles confie au conseil municipal le soin de fixer le nombre d'administrateurs du CCAS. Les membres élus par le conseil municipal et les membres nommés par le maire le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable. Le mandat du conseiller municipal est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du CCAS. Parmi les membres nommés doit figurer un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'Union départementale des associations familiales, l'UDAF, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département. Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de fixer à 15 le nombre d'administrateurs du CCAS répartis comme suit. Le maire, président de droit du conseil d'administration du CCAS, 7 membres élus au sein du conseil municipal, 7 membres nommés par le maire dans les conditions de l'article L123-6 du Code de l'action sociale et des familles. Les candidatures pour ces 7 membres commencent à arriver au CCAS et la directrice est en train de lancer un appel pour compléter cette liste. Vu le Code de l'action sociale, notamment les articles L123-6 et R123-7, vu l'article L237-1 du Code électoral, je vous propose de décider de fixer à 15 le nombre d'administrateurs du CCAS, le maire étant président de droit pour la durée du mandat, d'acter la nomination de 7 membres par Madame le maire et de procéder à l'élection des 7 autres membres. Des listes ont été déposées, elles sont à votre disposition et je rappelle que le vote donc se fait à bulletin secret. Alors je vous propose là par contre de peut-être voter de façon différenciée. Fixer d'abord à 15 le nombre de membres d'administrateurs du CCAS. Est-ce qu'il y a des personnes qui votent contre? Des abstentions? Donc on fixe ce nombre à 15. D'acter la nomination des 7 membres par Madame le maire. C'est une disposition légale donc, et de procéder donc, à l'élection des 7 autres membres. Donc, nous allons le faire tout de suite. Donc, l'urne va circuler au milieu de vous et je vous propose donc de voter pour la liste qui a votre... Ceux qui ont des pouvoirs, n'oublie pas de mettre 2 bulletins dans l'urne. Voter, je vais vous rappeler donc que pour la liste Partageons notre avenir, nous avons en candidature Jonathan Weinberg qui est en plus donc délégué au CCAS, Faouzia Oumadi qui est adjointe à l'action sociale, Christelle Brunet qui est déléguée à la lutte contre les exclusions, Olivia Boulanger qui est déléguée à la santé et Bernadette Aupetit qui est déléguée au lien avec les quartiers et à l'animation locale. Pour la liste Guéret Écologie Solidarité, nous avons la candidature de Marie Combeau, de Benoît Lascoux, de Delphine Bonin, de Patrick Dubois et d'Éric Correa. Et pour la liste Guéret en commun, nous avons la candidature de Madame Martial Robert. Et je profite pour la remercier pour le gros travail qu'elle a fait sur le mandat précédent au sein du CCAS. Voilà. On y va. Thank you. C'est peut-être pas arrivé, moi je crois. D'accord. Tous ceux qui avaient des pouvoirs ont bien voté deux fois. Il te manque des bulletins, Élodie ? Que deux personnes avaient donné pouvoir à Henri. Donc Thierry Baillet, son pouvoir n'est pas valable. Il l'avait aussi donné à Henri. Donc c'est peut-être celui qui te manque. Voilà. Donc nous avons pour la liste Partageons notre avenir les 5 candidats qui s'étaient proposés. Pour la liste Guéret Écologie Solidarité est élue Marie Combeau. Et pour la liste Guéret en commun, Martial Robert. Voilà, nous avons nos sept représentants au CCAS. Alors 21 voix pour la liste Partageons notre avenir, 5 pour Guéret Écologie Solidaire et 5 pour Guéret en commun. C'est tout, monsieur Franchin. À toi.
Non, effectivement, l'ordre du jour, donc une délégation du conseil municipal à madame le maire en matière financière. La décision de recourir à l'emprunt relève de la compétence de l'assemblée délibérante. Toutefois, la gestion de la dette et notamment la réactivité nécessaire dans diverses décisions s'accommodant mal du calendrier des séances du conseil municipal, le code général des collectivités territoriales prévoit une possibilité de délégation du conseil municipal au maire. Ainsi, dans le cadre de la délibération générale de délégation du conseil municipal à madame le maire en date du 17 juillet 2020, il est mentionné que le conseil municipal délègue ses pouvoirs pour la durée du mandat au maire afin de procéder dans la limite de l'inscription budgétaire annuelle à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture, de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L16618-2 et au A de l'article L2221-5-1 sous réserve des dispositions du C de ce même article et de passer les actes nécessaires. L'existence des emprunts structurés a donné lieu dans la circulaire interministérielle, vous me passerez la lecture, du 25 juin 2010, un encadrement plus strict des délégations que les assemblées locales peuvent donner aux maires dans le domaine de la mobilisation et de la gestion des emprunts. Les objectifs prioritaires de la gestion active de la dette menée par la ville depuis plusieurs années ont été de minimiser les frais financiers tout en préservant une exposition équilibrée de l'encours de dette au risque de taux. Il convient de rappeler que tout emprunteur court un risque de taux à la baisse sur ses prêts à taux fixes, à la hausse sur ses taux à taux variables. Aussi, afin de se conformer à cette circulaire, il vous est proposé de compléter les dispositions de la délibération du 17 juillet 2020 susvisées et de définir ainsi la délégation donnée au maire en matière de gestion des emprunts et de la dette, sachant que cette délégation est donnée pour la présente année civile et qu'il sera ensuite proposé au conseil municipal de se prononcer annuellement sur le renouvellement de cette délégation. Article 1. Le conseil municipal donne délégation au maire pour l'année 2020 pour contracter les produits nécessaires à la couverture du besoin de financement de la collectivité ou à la sécurisation de son encours, conformément aux termes des articles L2122-22, L3211-2, L4221-5 du CGCT, dans les conditions et limites ci-après définies. Vous m'autoriserez, je vous demande l'autorisation de faire une petite synthèse. On a tous eu le document et notamment sur certains articles avec les instruments de couverture et la stratégie d'endettement, ce qui est une difficulté puisque tous les documents ont été communiqués. Donc article 2, le conseil municipal définit sa politique d'endettement comme suit. Et donc à la date du 6 juillet 2020, l'encours de la dette de la ville présente les caractéristiques suivantes. Encours total de la dette actuelle du budget, y compris pré-relais, 17 748 965 euros. Encours à taux fixe, 11 450 955 euros. Encours à taux variable, 6 298 010 euros. Il est rappelé que l'encours de la dette des budgets annexes eau et assainissement a été transféré de la commune à la communauté d'agglomération du Grand Guéret au 1er janvier 2020. Suit donc une présentation détaillée avec la ventilation de la dette. Donc je vous remercie de me dispenser effectivement de la lecture. Article 3. Donc je vous propose, pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année, le maire reçoit délégation afin de contracter les instruments de couverture détaillés par la stratégie d'endettement avec les caractéristiques essentielles des contrats. Le conseil municipal autorise les opérations de couverture pour le présent exercice budgétaire sur les contrats d'emprunt constitutifs du stock de la dette, ainsi que sur les emprunts nouveaux ou de refinancement à contracter sur l'exercice et qui seront inscrits en section d'investissement du budget primitif. En toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts constitutifs de la dette et le montant de l'encours de la dette sur lequel portent les opérations de couverture ne peut excéder l'encours global de la dette de la collectivité. Seuil maximum retenu conformément aux critères arrêtés par le Conseil national de la comptabilité. En toute hypothèse, la durée des contrats de couverture ne peut être supérieure à la durée résiduelle des emprunts auxquels les opérations sont adossées. Cette durée sera déterminée en fonction des caractéristiques de chaque opération de couverture mise en place. Donc vous avez les index avec les taux fixes, effectivement les taux variables et autres taux. Pour l'exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d'au moins deux établissements spécialisés. Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers dont les montants dépendront des volumes souscrits ou couverts. Le conseil municipal décide de donner délégation à Madame le maire dans les conditions qui viennent d'être précisées, l'autorise à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est reconnue pour ce type d'opération, à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser, et en tenant compte des composants de l'équilibre général de l'encours, à passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée, à résilier l'opération arrêtée, à signer les contrats de couverture répondant aux conditions posées aux alinéas précédents. Il est donc également demandé, puisque c'était donc délégation de Madame le maire reçoit délégation aux fins de contracter des produits de financement, c'est le deuxièmement. Je vous demande et je vous remercie de bien vouloir me dispenser de la lecture de la stratégie d'endettement qui est détaillée. Et en vous demandant donc effectivement, le conseil municipal décide de donner délégation à Madame le maire dans les conditions qui viennent d'être précisées et l'autorise à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est reconnue pour ce type d'opération, à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné, du gain financier espéré des primes et commissions à verser, et en tenant compte des composants de l'équilibre général de l'encours, à passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée, à résilier l'opération arrêtée, à signer les contrats répondant aux conditions posées aux alinéas précédents, à définir le type d'amortissement, à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et ou consolidation, avec éventuellement intégration de la soulte due au titre du remboursement anticipé, notamment pour les réaménagements de dette, à passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable, à modifier une ou plusieurs fois l'index relatif au calcul du ou des taux d'intérêt, d'allonger la durée du prêt, à modifier la périodicité et le profil de remboursement, et enfin à conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. Le conseil municipal sera tenu informé des emprunts contractés dans le cadre de la délégation dans les conditions prévues à l'article L2122-23 du CGCT. Article 4, pour faire face à des besoins ponctuels de liquidité sans impact budgétaire direct. Le maire est autorisé à procéder à la souscription d'ouverture de crédit de trésorerie d'une durée maximale de 12 mois et dans la limite de 2 millions d'euros. À taux effectif global, compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière, pouvant comporter un ou plusieurs index parmi les index suivants, EONIA, ESTR, T4M, Euribor, TRM, TAG ou taux fixe. Cinquièmement, afin d'éviter des retards de transmission ou de retour par les organismes bancaires susceptibles d'entraîner des dysfonctionnements, il est proposé d'autoriser le premier adjoint par subdélégation à signer les documents relatifs aux emprunts et lignes de trésorerie en cas d'empêchement du maire. Par conséquent, il vous est proposé de donner délégation à Madame le maire dans les conditions qui viennent d'être indiquées en matière de gestion active de la dette et en matière de souscription de lignes de trésorerie. Un glossaire financier est joint en annexe que vous avez dû tous recevoir. Je vous propose donc effectivement de passer au vote, vote à main levée. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie.
Donc le dernier dossier est relatif à l'indemnité de conseil attribuée à Monsieur le trésorier principal de la ville de Guéret. En application de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1983, une indemnité de conseil peut être allouée au comptable non centralisateur des services déconcentrés du Trésor, chargé des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux. Cet arrêté prévoit qu'en dehors des prestations de caractère obligatoire résultant de leur fonction de comptable, ces fonctionnaires sont autorisés à fournir aux collectivités et aux établissements publics des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable. Ces prestations ont un caractère facultatif et donnent lieu au versement d'une indemnité dite indemnité de conseil qui peut être modulée en fonction des prestations demandées au comptable public. Il est précisé que cette indemnité est valable pour la durée du mandat du présent conseil, sauf délibération expresse contraire. Une nouvelle décision doit toutefois être prise à l'occasion de tout changement de comptable. Elle est actualisée chaque année. Son assiette se compose de la moyenne des dépenses de fonctionnement et d'investissement portées au compte administratif des trois derniers exercices, à l'exception des opérations d'ordre. Des pourcentages par tranche sont appliqués sur cette assiette selon un barème maximum établi à l'article 4 de l'arrêté précité. Donc vous les avez eus en votre possession. Considérant les services rendus par les trésoriers successifs dans le cadre de leur mission de conseiller économique et financier de la commune et présentement de M. Franck Benoît, considérant l'opportunité de recourir aux prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique et financière qui peuvent être demandées au comptable de la ville de Guéret, en dehors de ses fonctions de comptable principal, notamment toutes les questions sur l'établissement des documents budgétaires, de la gestion et de l'analyse financière ou de trésorerie, mise en œuvre des réglementations, toutes prestations facultatives qui peuvent donner lieu au versement d'une indemnité de conseil. En conséquence, il est demandé aux membres du conseil municipal de se prononcer sur l'attribution de cette indemnité au taux modulé, conformément aux prescriptions de l'article subvisé. Il est précisé que la dépense inhérente au paiement de cette indemnité, estimée à 2 700 euros, est prévue au budget principal, chapitre 11, charge à caractère général, compte 6225, indemnité aux comptables et aux régisseurs. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Alors, avant de clore ce conseil municipal, nous allons sur un prochain conseil municipal devoir décider de la composition des commissions internes et externes à la mairie de Guéret. Et donc, ce que je peux vous proposer, c'est de faire passer à chacun d'entre vous une liste de ces commissions avec le nombre de membres qui doivent y siéger pour que chacun d'entre vous puisse se prédéterminer et qu'on gagne du temps en matière de décision sur le prochain conseil municipal. Donc, vous allez recevoir ce listing. Réfléchissez aux commissions sur lesquelles vous aimeriez siéger et au prochain conseil municipal, on se décidera sur ces compositions. Est-ce que ça vous convient ? Parce qu'il y en a beaucoup, c'est un gros travail. Ça convient à tout le monde ? Très bien. Est-ce qu'il y a un souci, Delphine ? Non ? Bon, d'accord, très bien. D'accord.
On avait prévu d'envoyer par mail nos propositions avant le conseil.
D'accord. Mais c'est très bien, mais comme ça, on les aura toutes et on aura...
23, c'est le 31.
Non, j'ai pas donné de date. Hein. J'ai dit au prochain, c'est ça. Donc c'est fin août. Ça vous permettra de ne pas en oublier et de pouvoir voir combien de membres peuvent être élus dans chaque commission. D'accord ? Eh bien, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci.